À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Elias Sambar, curieux et non spécialiste.
Quatrième épisode, artisan de la paix. Bonsoir Elias Sambar.
Bonsoir.
J'aimerais ce soir, après avoir évoqué vos nombreux amis hier, j'aimerais ce soir que vous nous parliez de votre regard subjectif sur les négociations pour aboutir à la paix au Proche-Orient. Vous avez occupé un certain nombre de fonctions à ce titre. Vous avez participé à la conférence de Madrid en 1991. Vous avez été membre de la délégation palestinienne aux négociations bilatérales de paix à Washington en 92. Vous avez été nommé en mai 93 à la tête de la délégation pour parler sur la question des réfugiés palestiniens. Puis, vous avez été ambassadeur de la Palestine pour l'UNESCO pendant 15 ans. C'est donc de cette expérience de l'intérieur que j'aimerais que vous nous parliez. Bien entendu, expérience de l'intérieur et puis regard rétrospectif aujourd'hui sur ces années. Mais pour commencer, peut-être faut-il parler d'une figure que nous avons juste évoquée jusqu'à présent et qui est une figure importante du côté palestinien, qui a été le chef de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, pendant très longtemps, Yasser Arafat. Quelle relation entreteniez-vous avec lui ?
Une très belle relation affectueuse. Et ça ne sonne pas, de façon classique dans les engagements politiques, très affectueuse. Il avait une relation très forte et avec la capacité de faire penser à chaque interlocuteur qu'il existait en tant que tel, que c'était pas juste un numéro dans un groupe ou dans un mouvement. C'est un homme que nous avons, je dis nous, hein, parce que c'est vrai, jusqu'à présent, que nous avons beaucoup aimé. Parce qu'il a porté l'obsession, et je crois que si on voulait définir une très longue, très très longue pratique jusqu'à son décès, et c'est un homme qui a porté l'obsession de ramener notre nom à la visibilité. Ce qui restera de Yasser Arafat un jour, c'est que c'est l'homme qui a rendu le mot Palestine et le nom palestinien visible. Et un homme qui avait une intuition politique. Je vous raconterai deux ou trois choses, c'est tout, et vous comprendrez de quelle nature d'homme c'était. Il y a eu une fois un entretien avec la télé, j'étais là, et c'est Saeb Erekat qui était un de ses conseillers, qui était en train de parler, et Saeb Erekat, à un moment, dit, voilà, la Palestine... C'est l'islam, le christian. Et immédiatement, Arafat l'interrompt. Et lui dit, Saeb, dit les choses dans l'ordre. L'ordre, c'était, tu commences par dire le judaïsme, tu enchaînes avec le christianisme, et ensuite tu finis avec l'islam. Ça n'était pas formel. C'était cette perception profonde chez Arafat, qui était que nous étions cette pluralité-là. Que la Palestine, c'était cela. Et ça, c'est fondamental pour moi et pour des millions de Palestiniens. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas eu, c'était un mouvement quand même, on a parlé de lutte armée hier, vous m'avez posé la question, je vais y revenir très vite tout à l'heure. C'est un mouvement dans lequel se retrouvaient des dizaines de milliers d'hommes et de femmes en armes. Nous n'avons pas eu de liquidation interne. C'est quand même une chose très, très particulière dans tous les mouvements de guérilla. Il n'a pas liquidé, il n'a jamais liquidé un opposant. Et c'est fondamental. Parce que l'idée était, nous sommes une pluralité, donc une diversité d'opinions et d'idéologies. Et ce qu'il disait, je suis le garant précisément de cette diversité. Et puis il y a les moments où je l'ai vu réagir avec colère. Il a réagi toujours sur deux choses, avec colère, sans aller jusqu'à liquider qui que ce soit. Cette question que je vous dis sur l'importance des trois constituantes, des trois religions constituantes de la Palestine, est la question des femmes. Il pouvait devenir extrêmement cassant si la question des femmes était remise en question. Et c'est quand même formidable par rapport à toute cette période que nous avons vécue. Et je me souviens de trois petits échanges. Et les deux premiers, j'étais seul avec lui. Et c'est très rare, parce que souvent, quand on allait le voir, il y avait les gardes de corps, les conseillers, bref. Là, je me suis retrouvé deux fois seul avec lui. Et c'était à la suite d'une campagne, mais virulente et littéralement obscène, qui le critiquaient. D'ailleurs, de façon très, très, très bizarre, souvent ceux qui le critiquaient reprenaient contre lui des arguments qui traditionnellement étaient utilisés contre les Juifs, et notamment contre ses lèvres charnues et son nez crochu. Ça, je l'ai entendu. Deux gens qui avaient subi ce racisme-là et qui n'attaquaient que sur cette question de sa physionomie. Bref, donc je suis avec lui. Il y avait eu une attaque très, très virulente contre lui, menée également par certains chefs de l'OLP, donc internes. Et j'étais seul et je lui dis, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Nous sommes absolument indignés, je ne suis pas le seul. Nous ne permettons pas qu'on parle comme cela de toi. Et il m'a dit, non, arrête, c'est pas ça. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, il faut que tu comprennes une chose. Moi, quand l'intérêt de mon peuple est en jeu, je n'ai pas d'amour propre. Ça a été une des grandes leçons politiques que j'ai reçues, moi. Je peux avaler des couleuvres quand l'intérêt de mon peuple est en jeu. Et pendant les négociations, nous allons y venir, je n'ai fait qu'avaler des couleuvres de la part des délégations israéliennes. La deuxième chose qu'il m'a dit, qui était très belle, il m'a dit, tu sais, la terre entière pense que je porte ma cause. Ils n'ont rien compris. Toute ma force vient que c'est ma cause qui me porte. C'est pas moi qui porte la cause. Et la troisième est un échange avec Mahmoud Darwish le jour de son décès. Nous étions tous les deux très tristes. Il m'a dit, tu sais pourquoi nous sommes tristes? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, non. Nous l'aimions beaucoup parce que nous lui ressemblons. Et ça, c'est une image que le monde n'a pas perçue. Cette idée à quel point cet homme nous ressemblait, à quel point nous nous retrouvions un peu dans ses traits, dans sa fonction et sa façon de fonctionner. D'ailleurs, à ce jour, et j'en finirai par là, chaque fois que les Palestiniens sont dans l'impasse, jusqu'à présent, à Jérusalem ou n'importe où ailleurs, on n'entend que des gens dire « Où est-il ? » S'il avait été là, les choses se seraient passées autrement.
Donc, de l'autre côté, certains disent absolument la même chose sur Rabin.
Il y a une relation amoureuse très très forte avec cet homme. Et je crois qu'on nous disait souvent, il n'est pas légitime puisqu'il n'a pas été élu. Vous savez, cette vision très très formelle du fait électoral, eh bien, il a été plus qu'élu, il a été aimé. Et aimé massivement par son peuple. Voilà ce que je voudrais de Arafat. Maintenant, je voudrais, moi, vous dire une chose. Vous m'avez posé, lors de la précédente séance,
vous m'avez demandé,
vous m'avez une des séances précédentes, si j'avais rejoint la lutte armée dans l'OLP. Eh bien oui. Quand j'ai rejoint la lutte armée, d'ailleurs nous n'appelions pas l'organisation l'OLP, nous appelions ça la résistance palestinienne. Dans notre tête, nous rejoignions la résistance. Et nous avons été des dizaines de milliers de jeunes à le faire. Alors la question qui se pose... Comment quelqu'un qui est parti de la résistance telle que je la décris se retrouve à un moment, non pas nommé, ça c'est pas moi qui me suis nommé, mais acceptant de négocier
la lutte politique.
Toute la question du processus de paix est là. Et ce n'est pas seulement mon cas personnel. Il faut dire que nous avons franchi beaucoup d'étapes avant d'arriver à l'idée d'un vote en 1988 à Alger, que désormais nous allions résoudre le conflit par voie diplomatique et non plus par la voie des armes. Et d'ailleurs, la formule, le texte en usage à l'époque dans les résolutions était « Nous édifierons notre État sur toute parcelle de notre patrie qui aura été évacuée ou libérée ». Et on a eu pour la première fois de notre vie également recours au vote, et non pas à la forme consensuelle. Donc il y a eu une majorité qui a dit oui, on y va, et une autre qui a dit non. C'est la première fois, hein, dans toute l'histoire du mouvement palestinien, on fonctionnait en consensus, parce que comme je vous l'ai décrit, nous étions un regroupement d'idéologies et de sensibilités politiques. Il fallait à tout prix maintenir en permanence la cohésion du corps tout entier, ne pas perdre un des membres. À Alger, Arafat a pris ce risque sur une phrase très simple. là, les réunions étaient houleuses, et à un moment, il s'est levé, il a dit, écoutez, je vais vous dire, c'est très simple. Les négociations vont se faire. Nous étions au lendemain de la guerre d'Irak. Les Américains ont déjà lancé le procès. Ils vont se faire. Donc une partie va se jouer, dont nous sommes l'élément central. Choisissez. Nous allons voter. Choisissez. Vous voulez être sur le terrain ou être dans les gradins et regarder la partie. Vous voulez jouer ou regarder la partie qui joue votre sort et votre vie. Et c'est comme cela que le vote a été acquis. Mais je reviens à mon cas personnel. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années où nous étions partis, et il faut le dire, de deux choses, en ce qui me concerne, et vraiment en ce qui concerne toute une génération qui fut la mienne. Nous étions partis au départ de la destruction de ce que nous appelions l'entité sioniste. Vous avez beaucoup de gens maintenant qui ont négocié et qui disent qu'ils n'ont jamais été contre la négociation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des gens qui nient qu'ils ont évolué et qu'ils ont changé. Moi, je suis parti de l'idée qu'il fallait détruire l'entité sioniste parce que c'était une entité fascisante et totalitaire et qui nous avait dépourvus.
Attendez, l'entité sioniste, c'est l'État d'Israël ? C'est ça, allait
oui,
jusque-là ?
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Je reprends le vocabulaire en cours. Hein,
je
l'entité
traduis
sioniste.
À ma façon.
En 69, donc très vite après notre engagement, le Fatah publie un document sur qu'il intitule « La Palestine démocratique et les Juifs ». Dans ce document, que Jérôme Lindon a été le premier à faire traduire aux éditions de Minuit. Le Fatah dit, voilà ce que nous proposons comme solution. Nous proposons comme solution un État laïque et démocratique, dans lequel toutes les personnes présentes sur le territoire de ce qui fut ce qu'on appelle la Palestine historique, c'est-à-dire celle du mandat britannique, seront citoyens à part égale, avec devoirs et obligations communes, sans distinction de leur religion, de leur race et de leur couleur. Et je fais partie de toute une génération qui s'est précipitée dans ce créneau. Donc nous étions passés de la destruction de l'entité à l'idée de l'État démocratique. L'État démocratique a été allègrement rejeté par les Israéliens et les déclarations étaient « c'est encore un de leurs pièges ». Il nous propose cette formule pour pouvoir nous détruire encore plus facilement. Et vous savez, le conflit est reparti de plus belle avec des combats, des bombardements, toute la situation que maintenant tout le monde connaît. Donc, pour vous dire, quand nous sommes arrivés à la séance de Madrid, j'étais déjà, et encore une fois, pas seul. Je ne suis pas en train de parler d'un cas unique qui serait moi. Nous étions déjà très nombreux à être passé de l'idée de la destruction de l'entité à l'idée...
À l'acceptation de deux États.
Non, à l'idée du droit.
Oui, mais qui passait par, en tous les cas, l'acceptation de l'existence de l'État d'Israël et de la création d'un État palestinien.
Et dans le droit, l'idée de
l'égalité... Proclamée en 88.
Et dans l'État, l'idée de l'égalité. C'est à ce propos, c'est comme ça que je suis parti. Et bien avant Madrid, c'est moi qui étais chargé, de façon très confidentielle, de préparer tous les dossiers de la négociation. Donc pendant 2 ans, nous avons beaucoup, beaucoup travaillé. Il y avait 89 centres ou chercheurs qui ont travaillé sur tous les thèmes parce que nous savions que nous allions négocier bien avant, juste après 88, et bien avant qu'on aille à Madrid pour aller à la réunion portant dans nos valises tous nos dossiers.
Juste, il faut rappeler, Ilyas Sambar, Madrid, ça a été la première conférence d'envergure après la guerre froide. Elle a été soutenue conjointement par les États-Unis et par l'URSS qui vivait alors ces dernières semaines. Et elle s'est déroulée du 30 octobre au 1er novembre 1991. Le contexte est celui du lendemain de la guerre du Golfe de 1991.
Donc nous sommes entrés dans une phase pré, avec une délégation extrêmement intéressante parce qu'elle était... Il n'y avait aucun diplomate professionnel dans notre délégation. Aucun. Nous étions tous des chirurgiens, des architectes, des restaurateurs, vraiment, et des militants d'associations de droits de l'homme. Nous n'avions pas de... Bon. Je vous le dis parce que c'est un des traits de la négociation. Nous n'avons pas négocié comme des diplomates professionnels. Et la négociation s'est ouverte à un moment de changement monumental qui était que bien... que les Russes avaient annoncé leur présence, la négociation s'est faite sans les Russes. D'ailleurs, au bout de la deuxième session, ils se sont même plus fatigués à venir. On les voyait plus. Ils sont sortis de leur propre chef du jeu. Ça a été une catastrophe parce que ça a donné plein pouvoir à l'acteur et à l'intermédiaire américain. Là, je m'arrête sur un point de vocabulaire. Les Américains nous ont envoyé à la veille du départ vers Madrid deux lettres. Une lettre qu'ils ont appelée la lettre d'assurance et une autre qui était une lettre de la procédure. C'est-à-dire, dans la première, ils nous disaient « voilà à quoi va aboutir votre négociation ». Ces lettres, on aurait pu nous les écrire. Les Américains nous ont fait penser qu'ils avaient adhéré à toutes nos demandes. Dans la deuxième, il y avait une procédure qui était machiavélique, puisque dans la deuxième, ils ont établi ce principe désastreux, et là vous avez la deuxième clé pourquoi les négociations n'ont pas abouti, que comme les questions étaient très complexes, nous allions négocier pour commencer les points qui pouvaient être résolus, et au bout d'une période intérimaire, nous aborderions les questions plus...
Je crois que c'était à Oslo, ça, en 93. C'était déjà à Madrid, ça ?
Oui, bien sûr. C'est avant de prendre l'avion, avant d'arriver en Espagne, nous avions déjà ces deux
des
documents.
Des frontières du statut de Jérusalem, des colonies, des réfugiés.
Les colonies, surtout. Et, bien entendu, avec la disparition de la Russie du décor, la timidité de l'Europe et le silence de l'ONU, parce que c'était les quatre partenaires en principe, nous nous sommes retrouvés avec un maître du jeu américain et des Israéliens qui avaient la mainmise totale sur l'horloge. La seule chose qui a été absente tout le temps de la négociation et qui était fondamentale, l'égalité n'a jamais été présente. C'est-à-dire les Israéliens, pendant 40 ans, 50 ans, 30 ans, tout le temps qu'on a négocié, n'ont pas une seule seconde pensé que nous étions égaux. C'est vrai que le rapport sur le terrain était inégal. Il y avait une armée d'occupation et des occupés. Il y avait des réfugiés dans les camps. Mais sur la table, si la négociation devait être pertinente et juste et efficace, elle aurait dû être menée sur une base d'égalité. François Mitterrand, qui n'était pas un ange de paix, ni un grand favorable à la Palestine, avait énoncé à un moment deux principes qui auraient pu débloquer les choses. François Mitterrand et la France, mais ils ne se sont pas battus après pour appliquer cela, ont demandé à ce qu'il y ait la simultanéité et la réciprocité dans la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça aurait été la clé magique pour en finir avec cette histoire de période intérimaire. La réciprocité, c'est que chaque fois qu'il y a un pas palestinien, Israël, même si Israël domine, devra faire un pas analogue en face. Et la simultanéité, et c'est la clé, c'est que les deux pas devaient être faits en même temps. Parce que tant que ce n'était pas fait en même temps, les Israéliens pouvaient toujours dire « vous n'avez pas encore fait, à notre avis, ce n'est pas suffisant, etc. » Donc on ne fait pas. Si on avait appliqué ces deux principes, on aurait appliqué tout ce qui a été acquis dans les négociations, parce qu'il y a eu des choses qui ont été acquises. Et ça s'est arrêté là. La question des deux États aurait été une formidable porte de sortie. Pourquoi ? Parce que ça nous aurait permis de résoudre ce problème très long, très vieux, en commençant, je dis bien, par une pratique d'un beau voisinage. Et à partir d'une invention de beau voisinage, on aurait pu aboutir à une chose plus importante que la paix dans les traités, qui était la paix dans les cœurs. Donc, la paix également peut sauter. C'est un traité, c'est un papier. Par contre, le but réel, si on veut résoudre ce conflit, c'est d'aboutir à la réconciliation. C'est autre chose que la paix, c'est-à-dire l'acceptation. Et je pense que l'idée des deux États aurait été un bon chemin pour aboutir en inventant un voisinage et qui dure et qui soit harmonieux et qui aboutisse à une forme de réconciliation, c'est-à-dire qui apaise et rassure.
Juste un mot par rapport à cette époque-là. Il y a quand même eu Oslo. En 1993, Oslo, c'est la reconnaissance mutuelle des deux parties, l'OLP par Rabin et Israël, par Arafat, à la veille des accords. Ça a été la poignée de main entre Yasser Arafat, leader palestinien à l'époque, hein, et ce premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui a été assassiné 2 ans plus tard. On est le 13 septembre 1993, sur la pelouse de la Maison-Blanche à Washington, devant le président américain Bill Clinton, qui joue là encore les arbitres. Certains ont dit que... rétrospectivement, que ces accords étaient biaisés, que de toute façon, ils ne pouvaient pas arriver à la paix et encore moins à la réconciliation. Mais pour le monde entier qui regardait à l'époque, c'était un formidable espoir de victoire. Premier oui. point. Et deuxième point, si vous me le permettez, vous, je disais, c'est une vision de l'intérieur, nécessairement, donc c'est votre vision aussi subjective de ce qui s'est passé. Moi, il me semble, en vous écoutant, que vous renvoyez beaucoup aux États-Unis et vous renvoyez beaucoup à Israël. N'y a-t-il pas eu, malgré tout, des erreurs, voire des fautes du côté palestinien pendant cette période-là? Et si oui, lesquelles?
Bien sûr qu'il y a eu des erreurs, mais je commencerai par le premier point que vous soulevez, l'immense espoir qui est né à Madrid. Et j'ajoute, vous dites, un immense espoir pour le monde, pour les Palestiniens aussi.
Ben avant tout même, peut-être.
Voilà. Donc les gens y croyaient avant de devenir sceptiques.
Et les Israéliens qui voulaient la paix.
Voilà, vous voyez, avant de devenir sceptiques. Mais je crois que la meilleure réponse à cela... Parce que ça n'avait pas arrêté les attentats, ni la contestation, ni le fait qu'une partie des Palestiniens, comme une partie des Israéliens, refusaient d'aller jusque-là. C'est ce que Rabin a dit une fois. Je crois qu'il a signé son arrêt de mort quand il a affirmé cela. Il y avait eu un attentat très très dur dans une discothèque. Et Rabin avait dit « je vais réprimer » comme s'il n'y avait pas de négociation de paix. Et je vais aller à la paix comme s'il n'y avait pas d'attentat. Donc, ceux qui pensent qu'avec les attentats, je vais m'arrêter d'avancer sur le chemin de la paix, se trompent. Et Rabin a été assassiné par l'un des siens, c'est-à-dire par un citoyen israélien. Et je crois qu'il a signé ce jour-là son arrêt de mort. Le compte à rebours de l'assassinat a été lancé ce jour-là. Ils ont compris que ça pouvait se faire. Du côté palestinien, qu'est-ce qu'il y a? Un point avant d'arriver au côté palestinien. Je pense que le cancer, et aujourd'hui je n'ai même plus besoin d'argumenter pour le dire, le cancer qui a miné toutes les négociations, ça a été la colonisation. Jamais il n'y a eu autant de colonies que depuis que nous avons signé Oslo. C'est quand même très très bizarre pour un pays qui rêve, et je pense que sincèrement les Israéliens sont des gens normaux comme nous. Ils veulent vivre en paix, ils en ont marre de la guerre. Mais il n'empêche qu'il y a eu une sorte de démission d'une bonne partie de la majorité de la population en laissant leurs extrémistes faire ce qu'ils voulaient faire. Et aujourd'hui, on le voit, c'est devenu une question insoluble et les colons sont au gouvernement. Du côté palestinien, ce qui s'est passé, il y a eu, bien entendu, des oppositions internes. Il y a eu des oppositions qui n'étaient pas convaincues du tout et qui pensaient que cette histoire des deux États était une trahison. Pourquoi ? Et comment nous avons pu voter la question des deux États? C'est un point essentiel. Nous sommes partis d'une conviction et à partir d'une distinction. Sinon, ça n'aurait pas été possible d'adhérer. La distinction, c'était quelle est la différence entre la patrie et l'État? Quand nous avons été aux négociations, il n'y en a pas un parmi nous qui pensait que la Palestine n'est pas notre patrie. Nous avons été aux négociations... convaincu qu'on pourrait accepter que notre État ne soit pas établi sur tout le sol de notre patrie. C'était cela le compromis historique. Moi, personne ne me fera croire que je ne suis pas palestinien. Et je sais où est la Palestine. Mais j'étais prêt à aller à un État qui ne soit pas installé sur toute la Palestine. Et c'est cela le fondement au départ de l'idée des deux États. Donc il y a cette distinction qui n'a pas été acceptée facilement. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que c'est une trahison. Chez les Palestiniens. Il y a eu autre chose aussi, qui n'était pas simplement de l'ordre... Vous savez, l'idée de dire qui a fait une erreur n'est pas la bonne question. Ce n'est pas une question d'erreur. Ce n'est pas une question de gaffe psychologique ou politique. C'est dans un rapport de force dans lequel les Américains n'ont pas pesé du tout. Quand je dis la responsabilité américaine, c'est qu'ils ont laissé faire... et qu'ils auraient pu peser de façon beaucoup plus ferme sur la question des colonies notamment. Nous n'avons pas eu. Mais il y a eu une opposition forte palestinienne qui ne veut pas et qui, quelque part, a entravé les décisions du camp qui pouvait dire « on y va ». Parce qu'il y a eu également, nous avons une opinion interne, nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un parti unique avec un mot d'ordre, nous sommes avec des forces très très complexes et très différentes, et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu une paralysie pour avancer. Mais nous n'étions pas non plus, ce n'est pas une question de se dédouaner, nous n'étions pas encouragés pour avancer par le fait que les colonies s'arrêtaient. Donc les colonies, quelque part, ont donné du carburant à ceux qui voulaient nous forcer à ne pas aller de l'avant vers la paix.
Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot, Ilias Sambar, de votre rôle d'ambassadeur de la Palestine pour l'UNESCO à partir de 2006. Quel a été ce rôle pendant 15 ans ?
Ça a été tout d'abord le fait que la culture est un levier politique exceptionnel, contrairement à ce que les gens pensent. Ça a été aussi le fait que je me suis obstiné à entrer à l'UNESCO en tant que pays membre et pas en tant qu'une organisation. J'ai eu, si vous saviez, bon, un jour je raconterai tous les détails, le nombre de propositions de pays opposés à la Palestine qui m'ont dit « entre en tant qu'OLP et on vote pour toi ».« Entre en tant qu'OLP et on te donne les budgets ». Je disais « de toute façon, il n'y a pas d'organisation membre à l'ONU, il n'y a que des pays membres. Je suis un pays, je ne suis pas l'OLP, je suis un pays dans lequel il y a une OLP, mais je suis un pays ». Et donc, la Palestine, au bout de cette bataille, qui a été très très dure, pleine de menaces, et arrachée de plein pied de la reconnaissance des États, la Palestine est aujourd'hui membre à part entière en tant que pays. C'est le seul endroit, la seule organisation internationale où la Palestine est membre en tant que pays et non pas qu'une organisation. J'ajoute qu'à partir de cette entrée de plein droit, nous avons eu une autre carte formidable qui a été de pouvoir commencer à postuler pour inscrire nos sites au patrimoine universel de l'UNESCO. Là encore, très très vite, ce qui est fondamental pour le patrimoine universel, c'est que vous ne pouvez inscrire que des lieux sur lesquels vous êtes souverain. Donc, quand nous avons inscrit Bethléem, Hébron, Bathyr, nous avons aujourd'hui en cours l'inscription de Jéricho, c'est une reconnaissance internationale du fait que nous sommes souverains sur ces lieux, bien que nous soyons occupés. Donc, c'est une première mondiale, un pays occupé et souverain dans les lieux qui y sont occupés.
Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, hein, en ce début 2023, déception, colère, résignation ou autre chose.
Mais vous savez, l'histoire agit souvent par des voies souterraines, invisibles, et peut vous surprendre. Donc, si je pensais que les choses sont finies, et j'ai eu peut-être 20 ou 30 fois l'occasion de le penser pendant 50 ans d'engagement, je me serais arrêté dès la première fois. Je ne pense pas que ça soit fini. Ça n'est pas fini. Par contre, pour le moment, l'idée qui était très riche, et ça me fait beaucoup de la peine, hein, mais c'est comme ça. Ça y est, c'est réglé. Je prends acte. La question des États, des deux États, n'est plus praticable. On ne peut plus la faire pratiquement sur le terrain. Par contre, je reviens à mon obsession. La réconciliation doit rester, je ne sais pas par quelle voie, la réconciliation dans l'égalité et dans le respect mutuel doit rester une cible et un chemin à parcourir.
Merci Ilias Sambar.
Merci.
On se retrouve demain ?
Oui.
Alors bonne soirée. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Sandrine Malon, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.